les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Au milieu des années 50, il n'existait pas de vaccin contre le rhume. Il n'en existe pas non plus de nos jours, cela dit. À la même date, au milieu des années 50 donc, il semblait qu'il était de bon ton, dans certains milieux, de considérer que la vaccination obligatoire n'avait pas l'utilité qu'on lui reconnaissait. C'était vraiment faire bon marché, disait un chercheur, des progrès accomplis par les découvertes pasteuriennes. La Tribune du Progrès, première diffusion le 20 juin 1956.
La chaîne Paris Inter de la radiodiffusion télévision française présente à l'intention des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes Tribune du Progrès, une production de Paul Sarès. Cette semaine, notre tribune est consacrée à l'Institut Pasteur et au nouveau vaccin avec le concours de M. le professeur Lépine. M. Lépine, après ses études de médecine et de physique à Lyon, participe à la mission de la Fondation Rockefeller en Amérique centrale et devient professeur à l'Université américaine de Beyrouth. En 1928, M. Lépine entre à l'Institut Pasteur. En 1930, il est nommé directeur de l'Institut d'Athènes et depuis 1941, il est chef du service des recherches sur les virus à l'Institut Pasteur de Paris. C'est à ce titre qu'il a bien voulu venir s'entretenir ce soir avec M. Sarès sur l'histoire, les recherches actuelles et l'avenir de l'Institut Pasteur.
Avant de nous parler des principales réalisations de l'Institut Pasteur, voulez-vous nous rappeler, monsieur le professeur, les circonstances qui présidèrent à sa fondation ?
Le 1er mars 1886, l'Académie des sciences décidait d'ouvrir une souscription nationale pour la création d'un institut de recherche destiné à permettre à Pasteur de poursuivre ses travaux et d'appliquer la vaccination contre la rage. L'institut a été inauguré le 14 novembre 1888 et depuis cette date, il n'a pas cessé de se consacrer à la recherche sur les maladies infectieuses de l'homme, des animaux et même des plantes.
Avant d'arriver au stade actuel, pourriez-vous nous rappeler l'œuvre principale de l'Institut Pasteur ?
L'œuvre principale de l'Institut Pasteur a été non seulement la fondation de la science qu'est la microbiologie, l'étude des maladies infectieuses, mais la réalisation de sérums, de vaccins et de médicaments chimiques. On peut dire que presque tous les sérums et tous les vaccins qui sont employés en thérapeutique viennent de l'Institut Pasteur, ainsi que des médicaments comme le Stovarsol ou les sulfamides. Il est à peine besoin de rappeler que c'est à l'Institut Pasteur qu'est né le sérum antidiphtérique, le premier en date de tous les sérums, que c'est de l'Institut Pasteur que sont sortis des vaccins comme l'anatoxine diphtérique, l'anatoxine tétanique ou le vaccin BCG.
En ce qui concerne ce dernier vaccin, le BCG, pourriez-vous nous dire si les résultats obtenus ont été en rapport avec les grands espoirs que vous avez fondés au début de son utilisation ?
Le vaccin BCG est à l'heure actuelle l'un des moyens les plus précieux que nous ayons pour prévenir la tuberculose, en assurant chez les jeunes enfants la protection déterminée par l'allergie. Cette protection, nous le savons, n'est pas définitive. Elle a besoin d'être entretenue, mais elle a absolument transformé le problème de l'infection tuberculeuse. Elle réduit dans une proportion qu'on peut estimer à 6 à 10 fois le nombre des cas de tuberculose dans les groupes où l'on pratique la vaccination.
La recherche de nouveaux vaccins est certainement liée à la connaissance approfondie des virus. Quel progrès l'Institut Pasteur a-t-il fait dans ce domaine ?
La plupart des vaccins employés à l'heure actuelle ne s'adressent pas aux virus. Les vaccins sont soit des vaccins microbiens, comme le vaccin anticoqueluche ou le vaccin BCG, soit des vaccins antitoxiques, comme l'anatoxine diphtérique ou tétanique. Les vaccins dirigés contre les virus qui ont jusqu'ici été employés sont soit le vaccin contre la rage, le vaccin de Pasteur, dont on a conservé le principe mais modifié la technique, soit le vaccin contre la fièvre jaune, pour lequel l'Institut Pasteur de Dakar a mis au point une technique particulière qui est employée largement en Afrique noire, où elle a servi à plus de 40 millions de vaccinations. Mais jusqu'à présent, le nombre des vaccins des maladies de l'homme dus à des virus était relativement restreint, à cause des difficultés que nous avons de cultiver ces virus et d'en tirer les antigènes permettant la vaccination. C'est pourquoi les recherches fondamentales sur les virus ont eu une incidence heureuse sur la production des vaccins, en nous donnant le moyen de cultiver les virus en dehors de l'organisme, in vitro comme on dit, sur des cellules empruntées à des organismes vivants et maintenues en vie artificiellement dans des milieux entièrement synthétiques. C'est à partir de ce principe que nous pouvons envisager maintenant la production de vaccins contre la plupart des maladies dues à des virus.
Par exemple,
l'Institut Pasteur a mis au point un vaccin contre la poliomyélite qui va entrer dans la pratique. Mais nous pouvons déjà envisager d'autres vaccinations contre d'autres maladies, comme la rougeole par exemple, qui sera vraisemblablement l'objectif prochain à atteindre. Et je pense à d'autres maladies, peut-être moins connues du public, mais redoutables aussi.
Vous venez de nous parler de la sortie d'un vaccin contre la poliomyélite. C'est une question qui passionne l'opinion publique. Pourriez-vous nous donner à ce sujet de plus amples détails ?
Vous l'avez dit, cette question passionne l'opinion publique, et c'est bien là en effet le mot, car la presse a contribué à introduire dans un sujet relativement simple un élément passionnel qui n'a rien à voir avec la recherche. Partout où l'on travaille la question de la poliomyélite, on a cherché à mettre au point des vaccins. Nos premiers essais datent de 1930, à une époque où le seul moyen de produire du virus de la poliomyélite était d'inoculer des singes et de prélever leur système nerveux. Nos recherches n'avaient alors qu'un intérêt purement théorique, puisqu'il n'était pas question d'inoculer à l'homme un vaccin préparé à partir de systèmes nerveux, ceci en raison des inconvénients possibles. Lorsque, en 1949, aux États-Unis, Enders, Weller et Robbins ont montré la possibilité de cultiver le virus sur des cellules d'embryon humain, la voie était ouverte à la recherche d'un vaccin efficace. Les méthodes envisagées dès ce moment par différents chercheurs ont fait de très grands progrès depuis. D'abord, nous n'employons plus les embryons humains qui servaient aux premières recherches des auteurs américains. Et nous savons maintenant cultiver du virus sur des cellules d'origine humaine mais adultes, comme par exemple les fibroblastes empruntés à différents tissus, ou plus simplement encore sur un matériel plus facile à se procurer, en quantité pratiquement illimitée, représenté par les cellules épithéliales de reins de singe en bonne santé. Sur ces cellules, placées dans des milieux synthétiques, on cultive du virus en quantité considérable, et à partir des liquides virulents, on peut préparer par différentes techniques des vaccins qui se sont montrés efficaces dans la lutte contre la poliomyélite.
Est-ce en partant de ce principe que vous avez réalisé le vaccin français ? Quelle différence ce vaccin français présente-t-il avec le vaccin Salk ?
Le vaccin mis au point par le docteur Salk aux États-Unis est, comme tous les autres vaccins inactivés proposés à l'heure actuelle, basé sur le principe d'une culture du virus qui est ensuite inactivée par le formol à la température de 37 degrés, ainsi qu'on le fait déjà depuis longtemps pour l'anatoxine diphtérique ou tétanique et pour nombre de vaccins. Donc, tous les vaccins antipoliomyélitiques obéissent au même principe fondamental. Mais ils diffèrent les uns des autres par leur technique ou par des méthodes de mise au point. C'est ainsi que nous n'employons ni les mêmes souches que les vaccins américains, ni les mêmes milieux de culture, ni les mêmes méthodes de filtration et de séparation, ni la même proportion d'antigènes dans le vaccin terminal, etc. Bref, on peut dire qu'à tous les stades de la production, le vaccin français, bien qu'obéissant aux mêmes principes, est réalisé suivant des techniques particulières qui ont pris naissance à l'Institut Pasteur.
Monsieur Lépine, voulez-vous nous rappeler comment sera utilisé ce nouveau vaccin français et qui vient d'être mis à la disposition du public ?
Le but de l'Institut Pasteur a été de réaliser et de mettre au point un vaccin efficace et de le proposer au corps médical qui est juge de son utilisation. La question est donc avant tout et en fin de compte du ressort du ministre de la Santé, c'est-à-dire du Conseil supérieur de l'hygiène qui est le conseil du ministre sur l'emploi à faire de telles méthodes de protection ou de telles méthodes de vaccination. La vaccination contre la poliomyélite ne fait pas exception à la règle. C'est donc le Conseil supérieur d'hygiène qui a fixé les modalités d'application du vaccin contre la poliomyélite par les centres de vaccination qui seront répartis dans toute la France où les personnes qu'ils désirent pourront se faire vacciner ou vacciner leurs enfants. En attendant l'organisation de ces centres, prévus pour le mois d'octobre, le public peut obtenir, sur ordonnance médicale, le vaccin dans toutes les pharmacies pour être vacciné, s'il le désire, par le médecin de son choix.
Je vous demanderai tout à l'heure, monsieur le professeur, quelles seront les réactions de l'organisme au nouveau vaccin français contre la poliomyélite ? Mais avant d'en venir à cette question, voulez-vous nous dire où en sont les recherches sur les vaccins contre la grippe et le rhume ?
Il n'existe pas de vaccin contre le rhume banal. Quel que soit l'intérêt que l'on pourrait trouver à un tel vaccin, dans beaucoup de pays on l'a cherché, on n'y est pas arrivé vraisemblablement parce que le rhume banal dépend de causes multiples qui ne sont pas exclusivement infectieuses. Contre la grippe, par contre, des travaux très importants ont été consacrés depuis plusieurs années pour mettre au point un vaccin qui soit efficace. À l'Institut Pasteur même, cette question a fait l'objet de travaux poursuivis par Mlle Catteigne dans le laboratoire de la grippe. Il ne semble pourtant pas que nous puissions disposer, à l'heure actuelle, d'un vaccin pratiquement utilisable contre la grippe. La grippe est due à plusieurs virus différents, qui ont la particularité d'être en voie d'évolution, c'est-à-dire qu'ils se modifient d'une année sur l'autre. Si donc, théoriquement, et même pratiquement sur une petite échelle, il est possible de vacciner des individus en préparant un vaccin contre une souche donnée, rien ne prouve que cette même souche sera celle qui sera responsable d'une épidémie l'année suivante, par exemple. En fait, on observe toujours, ou presque toujours, des différences sensibles dans la constitution antigénique du virus qui est responsable d'une épidémie par rapport à celui de l'année précédente. Alors on peut se demander si l'on ne pourrait pas prendre le virus même de l'épidémie pour fabriquer un vaccin, de même qu'on fait par exemple les auto-vaccins à un malade pour l'immuniser contre son propre microbe. On se heurte ici à un double obstacle, qui est d'une part le temps nécessaire pour isoler une souche, la caractériser, l'entraîner sur les milieux artificiels, d'autre part, et surtout, l'impossibilité matérielle où l'on se trouve d'avoir simultanément la quantité d'œufs de poules fécondées incubées au 10e jour de l'incubation qui permettrait de fabriquer le vaccin. On a calculé qu'aux États-Unis, par exemple, pour préparer 6 millions de doses de vaccins, chiffre très faible pour un pays d'environ 150 millions d'habitants, qui ne servirait donc qu'à protéger les individus occupant des postes clés dans la nation, il faudrait disposer de la totalité des œufs que peuvent produire les États-Unis pendant une période de 6 mois. Il est évidemment illusoire de penser que tous ces œufs pourraient être amenés au même degré d'incubation au même moment. Ainsi, nous ne pouvons pas envisager pour l'instant, sous une forme pratique, la vaccination contre la grippe, bien qu'elle soit théoriquement réalisée et réalisable.
Nous avons examiné l'ensemble du problème de la vaccination. Mais en plus des nouveaux vaccins dont vous venez de parler, n'y a-t-il pas des progrès dans l'administration des anciens vaccins?
En biologie, aucune méthode ne peut être considérée comme définitive. La biologie est par essence une science mouvante au progrès continuel et les techniques qui en découlent sont elles-mêmes l'objet d'améliorations constantes. Il n'y a pas une seule des méthodes de vaccination qui n'ait été, au cours des dernières années, l'objet de perfectionnement. Si nous prenons par exemple la vaccination jennérienne contre la variole, la plus anciennement pratiquée puisqu'elle date du XVIIIe siècle, cette méthode, restée empirique pendant près de 100 ans, s'est rationalisée. Et à l'heure actuelle, les techniques de culture des virus sur milieux artificiels nous permettent de préparer des vaccins antivarioliques totalement dépourvus des germes secondaires qu'on pouvait rencontrer autrefois dans le vaccin. La vaccination contre la rage, qui reste le chef-d'œuvre immortel de Pasteur, a elle-même subi des retouches avec le temps. C'est ainsi que nous n'employons plus pour la vaccination la moelle de lapin desséchée comme au temps de Pasteur. On l'a remplacée par le cerveau de mouton pour des raisons techniques et pratiques qui permettent de préparer de meilleurs vaccins. Et nous envisageons déjà le moment où l'on pourra substituer au cerveau de mouton un vaccin entièrement préparé sur milieu artificiel en cellules de culture. Tout ceci ne diminue en rien la grandeur de la découverte de Pasteur, ne change rien au principe qui l'a guidé. Mais cela vous montre que toutes les méthodes de vaccination peuvent évoluer. Et c'est pourquoi la question des vaccinations est une question qui est et restera d'actualité.
Êtes-vous partisan de la vaccination obligatoire?
J'ai l'impression que le public a un peu trop oublié quelle était la situation avant l'introduction des vaccinations. Il semble être aujourd'hui de bon ton dans certains milieux de mépriser les vaccinations, de considérer qu'elles n'ont pas l'utilité qu'on leur reconnaissait. Et c'est vraiment faire bon marché des progrès accomplis par les découvertes pasteuriennes. Rappelons-nous par exemple, en ce qui concerne la variole, qu'au XIXe siècle, alors qu'en Prusse la mortalité annuelle était de 75 000 décès, 45 000 d'entre eux étaient dus à la variole. Il y a des pays dans lesquels, pour des raisons religieuses ou autres, la vaccination est insuffisamment pratiquée, comme aux Indes par exemple. C'est pas par centaines, mais par centaines de milliers que l'on y compte les morts annuelles par la variole. Les mêmes catastrophes que celles de jadis pourraient se reproduire en France si l'on cessait de vacciner. Il y a eu, un peu plus d'un an, une épidémie en Bretagne qui met le doigt sur la nécessité de maintenir les mesures de vaccination obligatoire contre la variole. On a assisté à une épidémie d'évolution assez rapide et à début très inquiétant, qui a frappé, il faut le signaler comme l'a fait le docteur Le Bourdelès, au début tout au moins, exclusivement des enfants de moins de 7 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que depuis la libération, on avait appliqué moins strictement les mesures de vaccination et qu'il a suffi de l'importation d'un cas provenant indirectement d'Indochine pour déterminer à l'hôpital même une épidémie très sévère qui a menacé d'atteindre le reste de la population. Cette épidémie n'a pu être arrêtée que par l'application généralisée de la vaccination. Dans le domaine de la fièvre jaune, par exemple, la France a vacciné ses populations d'Afrique noire. Le résultat, c'est qu'en AOF, par exemple, la fièvre jaune a aujourd'hui disparu. Cette maladie, qui était le fléau justement redouté des Blancs, ne compte plus parmi les causes de mortalité. Or, précisément à côté de l'AOF, il y a un pays d'influence britannique où la vaccination n'est que facultative. Si vous consultez les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, vous voyez qu'il n'y a pas une seule quinzaine où l'on y rapporte un, deux, trois ou même plus de cas de fièvre jaune, généralement mortels. Par conséquent, il n'y a aucune raison de relâcher les mesures qui ont conduit très justement les législateurs à imposer certaines vaccinations obligatoires pour des maladies hautement épidémiques qui risquent d'atteindre l'ensemble de la population. D'autres vaccinations, au contraire, qui s'adressent à des maladies moins épidémiques, présentant pour la collectivité un risque moins grave, comme par exemple la poliomyélite, en ce cas, la vaccination restera facultative, applicable aux seuls volontaires qui voudront librement s'y soumettre.
N'y a-t-il pas cependant, Monsieur Lépine, de contre-indications à la vaccination?
C'est au médecin à poser les indications, et surtout les contre-indications de la vaccination, qui varient suivant le vaccin considéré. Un état fébrile, une maladie aiguë, parfois une atteinte rénale, généralement un état physiologique déficient, peuvent contre-indiquer soit temporairement, soit définitivement la vaccination. D'autre part, la manière de pratiquer la vaccination permet souvent de surmonter des contre-indications. On admet par exemple qu'une vaccination antityphoïdique peut, si elle entraîne des réactions, être contre-indiquée chez un tuberculeux. Dans un pays où la fièvre typhoïde est fréquente et grave, j'ai autrefois vacciné sans aucun inconvénient des tuberculeux, même évolutifs, mais en fractionnant les doses et en les échelonnant sur un nombre d'injections suffisant pour qu'aucune d'elles ne donne naissance à une réaction. Il y a donc des contre-indications rares qui peuvent être absolues. Il y en a d'autres qui sont toutes relatives. C'est là un cas d'espèce, et le médecin familial est mieux placé que quiconque pour conseiller utilement ceux qui doivent recevoir une vaccination. Remarquons du reste que les vaccins les plus récents, préparés suivant les techniques les plus modernes, sont ceux qui donnent le moins de réactions.
Le vaccin antipoliomyélitique est-il donc totalement inoffensif?
Les conditions mêmes dans lesquelles il est préparé font que le vaccin terminé ne renferme que de l'eau distillée, quelques acides aminés et le virus inactivé. Le résultat, c'est que ce vaccin ne donne pratiquement aucune espèce de réaction. Pratiquement, c'est comme si on injectait de l'eau sous la peau, ceci sans réaction locale ni générale. Des progrès analogues seront réalisés progressivement pour toutes les autres vaccinations, au fur et à mesure du perfectionnement des méthodes de préparation.
Enfin, monsieur le professeur, pourriez-vous nous parler en guise de conclusion des projets d'avenir plus lointains de l'Institut Pasteur ?
Je ne suis pas qualifié pour parler des projets d'avenir de l'Institut Pasteur en général. L'Institut Pasteur est dirigé par le professeur Trefouel, qui a la lourde charge d'orienter les recherches qui se poursuivent à l'Institut dans tous les domaines de la microbiologie, des applications de la biologie ou de la chimiothérapie, pour lutter contre les maladies infectieuses et les maladies parasitaires en employant toutes les ressources que nous donne la science. Par conséquent, l'orientation des recherches de l'Institut Pasteur se fait naturellement vers l'amélioration des thérapeutiques existantes, vers l'introduction de thérapeutiques nouvelles des maladies infectieuses, par le moyen de recherches fondamentales dans tous les domaines des sciences liées à la microbiologie. Sur le terrain plus restreint, qui est le mien, celui des virus, le programme de recherche que nous avons devant nous et auquel nous consacrons déjà notre activité, c'est bien entendu l'isolement et la découverte de virus encore inconnus dans les maladies qu'on peut soupçonner d'être dues à des virus. C'est la culture de virus qui n'ont pas encore été réalisés en culture systématique, en série, comme par exemple le virus de la rougeole, avec l'espoir d'arriver à une méthode de vaccination pratique et efficace. C'est l'exploration du domaine des virus et des questions théoriques qui s'y rattachent, comme leur origine, leur genèse, leur mode de reproduction intracellulaire, etc. Question d'intérêt à la fois théorique et pratique. Enfin, c'est la question plus générale de la relation qui existe entre les virus et les microbes, entre les virus et les maladies qui ne nous apparaissent pas nécessairement comme des maladies infectieuses, telles que le cancer. Nous savons que certaines tumeurs sont sous la dépendance ou bien liées à la présence de virus. Vous voyez qu'il y a là un programme très large et qui suffira à occuper plusieurs générations de chercheurs.
Ce programme est prometteur pour l'avenir de la santé publique. En vous remerciant de cet amical entretien, Monsieur Lépine, permettez-moi de rendre hommage à tous les chercheurs qui, dans le monde entier, continuent l'œuvre de Pasteur.
Mesdames, messieurs, si votre curiosité a été satisfaite, si parmi les sujets traités, certains points vous paraissent justifier une étude plus approfondie, si vous désirez nous poser des questions sur d'autres découvertes récentes, écrivez à la Radiodiffusion Télévision Française, Tribune du Progrès, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Nous tenons à remercier les nombreux auditeurs qui ont bien voulu nous adresser leurs suggestions. Nous avons pris note de toutes leurs demandes et répondu par courrier aux questions d'ordre personnel. C'était, avec la participation du professeur Lépine, chef du service des virus de l'Institut Pasteur, Tribune du Progrès, une production de Paul Sarès.
Curiosité satisfaite, cette Tribune du Progrès a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 20 juin 1956. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France à la rubrique « Des nuits de France Culture ».